Vous écoutez Europe 1, il est 19h. Le journal Victor Pourchet, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. À la une, c'est fait, les Bleus ont dominé les Polonais pour s'offrir une place en quart de finale. Nous serons au milieu de la liesse des supporters de l'équipe de France dès le début de ce journal. Le retour du masque obligatoire en France, oui, demandent les instances sanitaires françaises. Le ministre de la Santé François Braun est lui plus réservé. Encore un peu de patience pour les adhérents Les Républicains. Il y aura un deuxième tour dans l'élection de leur futur chef. Et puis à l'étranger, l'abolition de la police des mœurs en Iran et l'entraînement des militaires français en terrain glacial, très ressemblant à celui que l'on trouve dans le Donbass en Ukraine. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Retour au calme dans notre ciel avec du soleil sur la moitié sud, un temps sec et brumeux sur le nord et des valeurs qui remontent. Pas de chute de neige.
Météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Et donc l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de foot, victoire 3-1 contre la Pologne, deux magnifiques buts de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps. Et juste avant la pause, il s'était passé ça sur l'antenne d'Europe 1.
Avec Mbappé, allez Giroud, c'est idéal pour Giroud, il va marquer.
Oui,
ça y est,
Giroud,
ça y est, Jacques, le record, ça y est,
le record est battu,
ça y est, c'est fait, 52 buts. Olivier Giroud est officiellement Jacques Vendroux, Cyril de la Borinerie, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football.
L'équipe d'Europe 1 Sport en folie sur le but de Giroud pour son record. Vous avez vibré avec nous et peut-être aussi en famille devant votre télé ou dans un bar. Caroline Baudry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vécu cette victoire des Bleus dans un pub parisien. Grosse ambiance, on l'imagine, Caroline.
Ouais, Victor, vous l'entendez, dans ce bar bondé au coup de sifflet final, les supporters ont exulté debout devant les écrans géants. Ambiance survoltée ici, quelques drapeaux bleu, blanc, rouge, des maillots deux étoiles sur le dos évidemment, et maquillage tricolore pour Mathéo et Adrien.
Ben non, on est super contents. En plus, moi j'avais mis à parier 3-1 sur mon petit prono. Bravo, bravo à la France.
Ça fait un peu peur après le dernier match qu'il y a eu. Mbappé, Giroud, un trio d'attaque de feu ce soir. Mais ouais, l'arbitrage à revoir, le but de Giroud, la retournée acrobatique qui a été annulée pour sans aucune raison. Et ouais, le pénalty à la fin, mais bon, c'est pas grave. On est à quart de finale et confiant pour la suite.
Et puis l'espoir douché des Polonais, ils étaient une poignée dans ce bar comme Natalia. T-shirt blanc, pantalon rouge, les couleurs de son pays qu'elle a soutenu jusqu'au dernier moment.
Franchement, j'avais beaucoup d'espoir pour la Pologne parce que quand même, c'est ma nation. Je pensais qu'il y avait quand même un match nul, mais même pas. Genre, j'espérais quand même les tirs au but, mais pas du tout. Genre, j'étais pas bien.
Et côté France, la soirée continue pour certains de ses supporters de l'équipe qualifiée pour les quarts de finale.
Merci Caroline Baudry. Et pour savoir qui sera l'adversaire des Bleus au prochain tour, ne manquez pas sur Europe 1, Angleterre-Sénégal, ce sera dès 20h. On passe à présent à cette question, faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire? Ce vendredi, on dénombrait 49 000 cas de Covid-19 en une semaine, plus 46% par rapport à la précédente. Alors la présidente du COVARS, le remplaçant du conseil scientifique, plaide pour. Le ministre de la Santé, François Braun, lui, ne l'exclut pas. Écoutez-le.
Bien malin celui qui peut dire exactement ce qui va se passer depuis le début de cette crise. On voit bien qu'il faut adapter en permanence, en fonction des circonstances, la réponse. Après, je pense que maintenant, les Français me connaissent, je fais appel à la responsabilité. Je ne suis pas favorable d'une façon générale à la coercition. Donc, je fais confiance, effectivement, je fais confiance aux Français. Maintenant, si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon bras ne tremblera pas. S'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront l'évolution de la situation.
Le ministre de la Santé, François Braun, qui doit s'exprimer dans quelques instants devant l'hôpital du Chesnay-Rocancourt dans les Yvelines. Cet établissement visé par une cyberattaque la nuit dernière et dont le fonctionnement est fortement perturbé. Les ordinateurs sont complètement bloqués et des patients ont dû être transférés. La politique et les Républicains devront patienter une semaine de plus avant de connaître le nom de leur futur chef. Le vote électronique des adhérents s'est clôturé à 18h. Vous êtes au siège du parti pour Europe 1, Alexandre Chauveau. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Il y aura un second tour. Éric Ciotti face à Bruno Retailleau, mais pas de grande surprise sur ce premier tour.
Oui, 42,7% des voix pour Éric Ciotti, 34,4% pour Bruno Retailleau, 22% pour Aurélien Pradier. Ce sont donc les deux candidats les plus expérimentés qui franchissent ce premier tour. Gros score pour Éric Ciotti qui domine donc assez nettement ses deux concurrents et qui confirme son statut de favori, même si l'entourage de Bruno Retailleau reste confiant pour le second tour. Tout l'enjeu, ce sera d'aller chercher les électeurs d'Aurélien Pradier qui a recueilli près de 15 000 voix et qui sera donc l'arbitre de ce second tour. Éric Ciotti l'a bien compris et a fait un pas vers le Benjamin de la compétition. C'était il y a tout juste quelques minutes.
Je veux également remercier Aurélien Pradier qui a fait une très belle campagne, une campagne tournée vers le renouvellement, vers la jeunesse, des aspirations qu'il faudra bien entendu entendre à la tête de notre famille politique.
Alors Aurélien Pradier ne s'est pas encore exprimé, mais il n'est pas sûr qu'il appelle à voter pour l'un ou pour l'autre des candidats. Bruno Retailleau, lui, est arrivé au siège. Il s'exprime en ce moment devant les militants. La campagne du second tour commence donc aujourd'hui. Dès maintenant, elle durera une semaine et l'on connaîtra le nom du prochain président des Républicains dimanche prochain à la même heure.
Alexandre Chauvin, direct du siège des Républicains. Merci Alexandre. Éric Zemmour a fêté lui un anniversaire au Palais des Sports de Paris, celui de la fondation de son parti Reconquête il y a un an. Un discours pour saluer ses adhérents et affirmer qu'il comptait bien peser dans le débat public comme aux prochaines élections par exemple. L'ancien candidat à la présidentielle a également réaffirmé son projet d'union des droites, indispensable selon lui pour faire gagner ses idées en 2027.
L'union des droites, ce n'est pas pour moi ni une passion ni une obsession, c'est un moyen. Et la seule manière d'obtenir plus de 50% des voix, c'est de réunir tous les Français qui défendent l'identité de la France. C'est ainsi que j'appelle la droite. Un homme ou une femme de droite peut avoir une fibre sociale ou libérale, il peut être des métropoles ou de la France périphérique, il peut lire des livres ou aimer les chats, peu m'importe s'il a compris que la question essentielle qui se posait à nous était celle de notre survie.
Éric Zemmour au Palais des Sports de Paris, c'était cet après-midi. On marque une courte pause et juste après, la police des mœurs abolie en Iran après 2 mois et demi de manifestations féministes. Vraie victoire ou effet d'annonce? On vous répond dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Et 19h passées de 10 minutes sur Europe 1, la suite de votre journal et cette annonce ce matin du procureur général iranien. La police des mœurs est désormais abolie. Rappelez-vous, c'est elle qui était mise en cause dans la mort de la jeune Mahsa Amini il y a un peu plus de 2 mois. Depuis, la révolte gronde dans les rues du pays. Alors Louise Douillet, cette décision a l'air d'aller dans le sens des manifestants, mais qu'est-ce qu'elle signifie exactement ?
Que les Iraniennes ne seront plus réprimées si elles ne portent pas leur voile dans l'espace public, si leur tenue est trop courte, trop moulante ou trop voyante. Ou plutôt, que ce ne seront plus ces patrouilles d'hommes en uniforme vert et de femmes en tchador noir qui les rappelleront à l'ordre, mais une autre unité, de l'avis du chercheur émérite à l'EHESS, Farhad Khosrokavar.
Ils ont 1000 polices qui peuvent intervenir, l'armée des Pasdaran, les civils, c'est-à-dire habillés en civil. C'est un régime omni-répressif, c'est un régime que j'appelle thanatocrate, c'est-à-dire qu'il ne sait pas régler les problèmes sociaux, il ne fait que réprimer. Par conséquent, cette demi-mesure ne changera strictement rien à la nature des manifestations de mon point de vue.
Rien, car le port du voile reste obligatoire et que même s'il devenait facultatif, cela ne suffirait pas à calmer la colère des manifestants.
Les slogans ne sont plus « femme, vie, liberté », mais « abat le dictateur, abat le régime ». Il y a un changement de la nature de ce mouvement qui s'est transformé en dénonciation globale d'un régime totalitaire.
Un régime au sein duquel plus de 300 personnes ont été tuées en 2 mois et demi de protestation.
Les explications de Louise Douillet pour Europe 1. En Ukraine, maintenant, plus de 500 localités dans 8 régions du pays sont coupées du réseau électrique. Selon Kiev, les autorités ukrainiennes dénoncent des attaques russes sur des infrastructures énergétiques alors que l'hiver s'installe. La crainte du froid pour les civils et pour les militaires. Et justement, l'armée française s'entraîne aussi à ces conditions extrêmes. Depuis hier, 185 de nos soldats forment en Estonie 300 de leurs homologues estoniens, membres de l'OTAN, tout en s'habituant à un environnement glacial proche de celui du Donbass en Ukraine. Notre envoyé spécial en Estonie, William Molinier, a suivi les militaires du 13e bataillon de chasseurs alpins.
Il est 15h, la nuit tombe sur l'île de Saaremaa. La température approche les moins 10 degrés. La première classe, Samuel, fait chauffer de l'eau.
Alors là, c'est des nouilles orientales. C'est pour ça que là, dès qu'on peut, on fait un café, des nouilles chaudes.
Les chasseurs alpins sont habitués au froid, mais celui-ci est particulier, comme l'explique le chef de section Maxime.
Alors la sensation qu'on a, c'est que c'est un peu plus humide, comme on est vraiment bas et que c'est beaucoup de marécages partout. Un froid humide va être beaucoup plus efficace, et là on l'a vu ce matin. Dès que le vent s'est levé en bord de mer, ça, on a tout de suite ressenti la différence.
Ils savent crapahuter, construire des igloos, tenir des cols, mais en Estonie, le relief est inexistant et les Français doivent adapter leur technique de combat.
Et bah, on fait tout à la carte. Puis on s'adapte en fonction des cartes assez précises qu'on a, parce que tous les découverts sont vraiment bien marqués, la plupart des pistes sont vraiment bien réalistes. Il y a une partie des drones aussi qui peut nous être utile. On a eu tout à l'heure des visuels sur un drone qui nous éclairait en avant des découverts.
Côté équipement, les Estoniens ont prêté aux Français des tentes de 12 places avec un poêle au milieu, de quoi faire monter la température pendant la nuit autour des 10 degrés. Sur l'île de Saaremaa, William Molinier, Europe 1.
Et la guerre sur le terrain et la bataille économique aussi, notamment sur le volet énergétique. Demain doit entrer en vigueur le plafonnement du baril de pétrole russe à $60, le mécanisme sur lequel se sont accordés l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Aujourd'hui, les représentants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole emmenés par l'Arabie Saoudite ont, eux, privilégié le statu quo. Leur production ne changera pas. À la clé, une potentielle hausse des prix à la pompe. Dans ce contexte, vous le savez, la facture de gaz aussi s'envole. Alors en France, on cherche de nouveaux moyens de production plus écologiques si possible, comme la méthanisation du gaz naturel produit à partir de déchets végétaux. On vient de passer la barre des 500 sites sur le territoire, la plupart du temps chez des producteurs agricoles comme chez Louis Courtier à Chamis en Seine-et-Marne. Tour du propriétaire avec Baptiste Morin pour Europe 1.
Ce matin-là, des tracteurs viennent stocker des résidus de maïs. C'est l'assiette, comme l'explique Louis, agriculteur de 30 ans.
Notre stockage correspond à l'assiette. Ensuite, on va avoir la trémie 30 tonnes par jour incorporée dans les digesteurs. On assimile la trémie à la bouche et le digesteur aux estomacs de la vache.
La méthanisation reprend le principe de la digestion sous de grands dômes gris, du fumier, de l'orge ou encore de la pulpe de betterave macère à 42 degrés.
C'est dans le digesteur qu'on va avoir la méthanogenèse, qui va transformer la matière en biogaz.
Il y a deux ans, Louis s'est associé à deux autres fermes pour lancer ce projet. 6 millions d'euros d'investissement qui seront vite rentabilisés.
C'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une belle ferme, un peu plus d'un million d'euros.
Sans compter le résidu de la méthanisation qui sert d'engrais naturel et remplace 40% des apports chimiques. De l'autre côté, le gaz vert va irriguer les habitations aux alentours. Louis est agriculteur comme son grand-père. Mais le métier a évolué.
Lui produisait de la viande. Nous, on va produire aujourd'hui du biogaz qui va permettre de chauffer entre 2000 et 4000 maisons.
En rêvant un jour d'atteindre l'indépendance énergétique avec des tracteurs au gaz.
Le reportage Europe 1 de Baptiste Morin. Et comme promis, la météo, Valérie Darmon, le temps de la semaine ?
Eh bien, avec le redoux prévu en début de semaine dans le sud du pays et malgré la remontée de précipitations de l'Espagne vers la France, il n'est plus question de neige en plaine. En revanche, de nombreuses perturbations vont se succéder sur la France cette semaine. Ce lundi, on va retrouver néanmoins un peu de luminosité, surtout dans le sud, avec un plein soleil entre le sud-ouest et le sud-est, et ça va rester brumeux au nord. L'avantage est que le rayonnement nocturne permet aux températures de remonter. Et c'est seulement à l'approche du 10 décembre que le temps pourrait se rafraîchir. En attendant, votre mercure de l'après-midi ce lundi va afficher des valeurs beaucoup plus douces, entre 3 à Verdun et 16 à Toulon, 5 annoncés à Paris, 6 à Caen, 7 à Bourg-en-Bresse, 8 à Rodez et à Lyon, 9 à Gap et Cherbourg, 11 degrés à Carcassonne et Bordeaux et 14 degrés à Biarritz.
Merci Valérie. Europe 1, il est 19h, passé de 16 minutes tout de suite. On continue de parler foot, Europe 1 Sport avec vous Lionel Rosso.